Les rues de Gênes sont étroites et obscures. Dans la Strada Nuova, un peu plus large que les autres, sont les plus beaux palais. Il est assez difficile de voir ces palais. Ils sont presque toujours démeublés et quand le maître sort ou va à la campagne, il emporte la clé dans sa poche. Extrait du journal de voyage de Montesquieu en 1728.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La guerre de succession d'Espagne allait rebattre les cartes politiques dans la péninsule italienne. Le traité d'Utrecht de 1713 et celui de Radstadt en 1714, en mettant fin à ce conflit, signifient la fin de deux siècles de puissance espagnole en Italie au profit des Habsbourg de Vienne. L'empereur Charles VI, devenu souverain du Saint-Empire romain germanique depuis 1711, récupère le Milanais, agrandi du duché de Mantoue, les présides de Toscane, le royaume de Naples et la Sardaigne, alors que la Sicile est dévolue au duc Victor Amédée de Savoie, qui acquiert à ce moment-là le titre de roi de Piémont. En 1717, le Piémont et le royaume de Naples procèdent à un échange de souveraineté sur la Sardaigne et la Sicile. Le royaume de Piémont arrondit ses possessions à l'est en annexant des districts de Novare et de Tortona. Mais également, nous voyons en Italie que l'Espagne essaye de conserver au plus la puissance qu'elle avait, mais sans véritablement réussir, puisque la politique du cardinal Giulio Alberoni, qui était le principal ministre du roi d'Espagne Philippe V, est finalement un échec. À l'issue de la guerre de succession de Pologne, entre 1733 et 1738, la puissance autrichienne est quelque peu diminuée. Don Carlos accède au trône de Naples, ville où il a fait son entrée solennelle le 10 mai 1734. Il règne sous le nom de Charles VII avant de devenir Charles III d'Espagne en 1759. Les Bourbons de Naples sont d'ailleurs liés à ceux de la cour de Madrid et de la cour de Versailles par le pacte familial de 1761. D'autre part, François de Lorraine, époux de Marie-Thérèse d'Autriche, succède au dernier des Médicis, Jean Gaston, décédé en 1737. La guerre de succession d'Autriche, entre 1740 et 1748, est marquée, entre autres, par l'occupation de Gênes par les Autrichiens en 1746. Cet épisode a d'ailleurs une postérité importante dans l'histoire de l'Italie. Une révolte anti-autrichienne est initiée par un jeune garçon, Giambattista Perasso, di Balilla, qui inspire en partie l'hymne composé par Goffredo Mameli en 1847 et qui est devenu celui de la République italienne en 1946, Fratelli d'Italia. La paix d'Aix-la-Chapelle de 1748, mettant un terme à ce conflit, consacre un nouveau rapport de force dans la péninsule. Elle lui assure une cinquantaine d'années de paix sous la surveillance des Habsbourg de Vienne. Ce qu'il faut bien noter, c'est que, alors que nous parlons en France du siècle des Lumières, l'Italie a connu elle aussi ce qu'on appelle l'illuminisme, c'est-à-dire une période de despotisme éclairé, de réforme, où finalement chaque souverain a essayé, à des divers niveaux, de moderniser les États sur lesquels il régnait. L'historien François Bluch a d'ailleurs souligné les contradictions des pratiques que pouvait avoir ce despotisme éclairé. Comment espérer, écrit l'historien, donner une définition comme de la souveraineté quand le contrat social vient en concurrence avec le droit divin ? Des principes économiques, puisque la lutte est incessante entre les thèmes des physiocrates et le vieux colbertisme, le vieux centralisme économique. De la politique sociale qui varie selon les tempéraments et s'adapte à mille conditions de temps et de lieu. Il n'en reste pas moins vrai que malgré les difficultés et les contradictions du système du despotisme éclairé, plusieurs États italiens sont modernisés par de nouvelles pratiques du pouvoir. Et d'abord, le Grand-Duché de Toscane, gouverné par les Grands-Ducs François, mais surtout Léopold, à partir de 1765, conseillé par Pompeo Neri, qui a servi les Habsbourg à Milan. On retrouve également, auprès du Grand-Duc, Angelo Taviani, secrétaire d'État aux Finances, Francesco Maria Gianni, qui a succédé à Néri en 1776. Il y a également la Lombardie autrichienne, qui dépend donc du gouvernement de Vienne, et où le chancelier von Kaunitz essaye lui aussi de moderniser quelque peu le vieux duché. La politique réformiste de l'illuminisme italien touche plusieurs domaines. L'économie, la justice, l'organisation religieuse. En matière économique, domine la pensée physiocratique, c'est-à-dire une réflexion favorable au libéralisme, qui prône la fin des droits intérieurs, des biens de main morte, des corporations qui encadrent les métiers. Par exemple, en Toscane, le grand-duc Léopold supprime les droits de douane intérieure en 1781, afin de faciliter les échanges. L'institution ecclésiastique est aussi réformée. À l'image du Portugal, de l'Espagne ou de la France, le duché de Parme a expulsé les jésuites en 1768, ce que fait également d'ailleurs le grand-duché de Toscane à la suite de la suppression de l'ordre par le pape Clément XIV en 1773. En Lombardie, l'Inquisition et les tribunaux ecclésiastiques sont abolis et la censure des livres passe non plus sous la responsabilité de l'Église, mais du pouvoir politique. Le grand-duc Léopold, à Florence, souhaite également réformer l'Église. En 1769, il impose le système de l'exequatur, c'est-à-dire que tout document pontifical n'est publié dans le grand-duché qu'avec l'accord des autorités gouvernementales. Sur le plan institutionnel, le grand-duc Léopold a aussi une vision très novatrice. Il écrit que le souverain, je cite, ne peut intervenir ni directement ni indirectement dans la justice civile ou criminelle. En 1782, il rédige ce qui est le seul exemple de constitution dans le cadre du despotisme éclairé, dans un titre qui s'intitule « Édit pour la formation de l'État de Toscane ». Il y a également, en Toscane, une grande nouveauté sous l'influence du juriste Cesare Beccaria, auteur du traité des délits et des peines, puisque le grand-duché abolit le 30 novembre 1786 la peine de mort. C'est une nouveauté absolue dans l'Europe du temps. Autre élément, c'est que le XVIIIe siècle va s'intéresser au patrimoine artistique. Les voyageurs en Italie vont souvent décrire ce qu'ils voient, et de ce point de vue-là, les Français, avec le Grand Tour, c'est-à-dire ce voyage qui les transporte en Italie, en Allemagne, en Autriche, etc., nous donne des portraits intéressants des villes et des monuments. En effet, si vous prenez le président de Brosse, qui a présidé le Parlement de Dijon, il nous a laissé des lettres d'Italie extrêmement intéressantes. Il décrit par exemple que Turin est la plus jolie ville d'Italie, et à ce que je crois de l'Europe, par l'alignement de ses rues, la régularité de ses bâtiments et la beauté de ses places. On peut discuter l'avis du président de Brosse, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il nous a laissé un témoignage non négligeable. De même, Charles Duclos, historiographe de Louis XV, qui parcourt l'Italie en 1767, il se montre d'ailleurs sévère au sujet de l'administration pontificale à Rome. En général, écrit-il, l'administration économique des papes est modérée, mais le gouvernement est trop léthargique et ne peut guère être autrement. Chaque pontificat n'est guère évalué qu'à 7 ans, en formant une durée moyenne d'une suite de papes. Il n'est guère possible qu'un vieillard s'occupe des vices qui peuvent se trouver dans l'administration, se flatte d'avoir le temps de les corriger et d'affermir la réforme, ou même, et à un âge avancé, le courage nécessaire pour une telle entreprise. Les mœurs italiennes sont également observées de près par les visiteurs français. Au milieu de la décennie 1760, Ange Goudard, libertin de son état, décrit ses impressions sur les offices catholiques. La religion se pratique ici avec beaucoup de gaieté. Les actes de piété qui se remplissent dans les églises sont très réjouissants. La plupart des prières qu'on adresse à l'être suprême s'exécutent en musique. Les hymnes sont notés et on les joue en cadence. Presque toutes les bénédictions que Dieu donne à ses peuples y sont avec symphonie et basse continue. Donc vous le voyez, nous avons effectivement beaucoup de témoignages sur ces éléments du patrimoine italien. Un des derniers grands visiteurs à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, ce sera par exemple quelqu'un comme Chateaubriand qui connaît l'Italie. Et à l'image de Charles de Brosse, il est fasciné et désolé à la fois par le Forum romain. Charles de Brosse écrit d'ailleurs à ce sujet « En un mot, tout ce grand espace, depuis le Capitole jusqu'à l'Arc de Titus, formant autrefois le Forum Romanum, aujourd'hui Campo Vaccino, n'est guère que des restes des plus beaux bâtiments antiques, les uns par terre, les autres debout, mais qui seront bientôt par terre. J'ai regret surtout aux fragments de Jupiter Stator. C'est la plus belle chose au monde. Du reste, tout cela est fort confus, mal entretenu. La place même est un vrai désordre, une vraie ruine. Mais à la fin du XVIIIe siècle, ce ne sont pas des voyageurs français qui parcourent l'Italie, mais des troupes du général Bonaparte qui vont totalement modifier les structures de la péninsule. »